Pour ce matin, je vous propose une promenade dans le livre de la Genèse, en particulier en compagnie de notre père à tous, Abraham. C'est au chapitre 12, versets 1 à 5. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Je passe quelques chapitres et j'arrive au chapitre 15, entre le verset 1 à 6. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit : Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier, ta solde. Ta solde sera considérablement accrue. Abraham répondit : Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit : Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes : Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Il le mena dehors et lui dit : Contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Puis il dit : Telle sera ta descendance. Puis il dit : Abraham, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Excusez-moi, l'ajustement des yeux n'est pas tout à fait en phase. Entre-temps, ensuite, Abraham a un fils, Ismaël, de la servante Agar. Puis plus tard, au chapitre 17, il devient Abraham. Plus tard, au chapitre 18, le chêne de Mambré. La promesse est faite à Abraham d'avoir un fils, des enfants, de sa femme, alors qu'ils sont très vieux. C'est alors que Sarah rit. Au chapitre 21, il y a la naissance d'Isaac. Puis au chapitre 22, du verset 1 à 13, ce que nous avons coutume d'appeler le sacrifice d'Isaac. Or, après ces événements, Elohim dit : Abraham. Il répondit : Me voici. Il reprit : Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens qui étaient avec eux : Demeurez ici, vous, avec l'âne. Moi et le jeune homme, Isaac, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit les bûches pour l'Holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent et à aller ensemble, unis. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Il reprit, « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Si j'ai choisi de centrer cette prédication d'aujourd'hui sur Abraham, c'est notamment parce que la question du sacrifice est au cœur de toutes les questions religieuses. Comment se fait-il que partout, les êtres humains aient un jour éprouvé le besoin ou l'obligation de tuer des êtres vivants rituellement ? Ainsi, je vous propose d'interroger ensemble ces passages bibliques, le sacrifice d'Isaac, qui est parmi les plus décisifs et pour moi les plus scandaleux qui soient. Du moins, tel qu'il a été compris, traduit trop longtemps. Il semble en effet que peu de textes religieux peuvent faire autant de mal, à mon avis, que celui-là. Vous l'aurez compris, j'aime bien provoquer. Je me souviens qu'en latin, provoquer signifie provocare, nous appeler au-delà. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Je pose comme hypothèse que ce texte influe considérablement sur la lecture que nous pouvons faire aussi des évangiles. Mais d'abord, Abraham. Qui est donc Abraham ? Sans la Bible, nous ne le connaîtrions pas. C'est un patriarche qui est devenu fondateur, en qui se reconnaissent les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Son histoire nous est parvenue par le livre de la Genèse. Elle a été écrite entre le 7e et le 5e siècle avant notre ère. Et c'est le résultat de la combinaison de récits de provenance très variée, réunis par plusieurs rédacteurs. Abraham est ainsi un ancêtre mythique, à multiples facettes. Tour à tour, il est un croyant exemplaire, quelqu'un qui ne fait pas confiance à la parole divine, quelqu'un qui est confronté à des expériences diverses du divin, un Dieu qui peut être bienveillant, ou bien un Dieu obscur qui semble lui demander un sacrifice humain. Abraham n'est pas un personnage historique. Il est mort à 175 ans. Même avec la réalité augmentée, aujourd'hui, nous n'y parvenons pas. Il est construit, en fait, comme un ancêtre écuménique, au sens rassemblant tous ceux qui vivaient en Canaan à l'époque. Au cours de son histoire, Abraham change de nom. Il s'appelle au départ Abram. C'est un nom ouest sémitique courant qui est attesté au deuxième et premier millénaire avant notre ère. Abram signifie le père élevé. C'était probablement le nom de celui du Dieu qui l'honorait à l'époque, puisque il n'avait pas encore totalement compris, peut-être, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Abraham est un nom qui n'est attribué à personne d'autre dans la Bible. Probablement une façon pour l'un des rédacteurs bibliques de distinguer l'ancêtre mythique du peuple hébreu de tous les autres Abraham. Donc Abraham est un nom qui n'est attribué à aucun autre dans la Bible. Probablement une façon pour l'un des rédacteurs de distinguer cet ancêtre mythique du peuple hébreu de tous les autres Abraham. Abraham est en fait un jeu de mots qui combine à la fois la foule et le père, d'où l'expression ensuite « père de la multitude ». Donc, au début de son histoire, Abraham, dont la famille vient d'Our, en Chaldée, reçoit l'ordre divin de partir vers le pays que l'Éternel lui montrera. C'est en Genèse 12. Donc Abraham se met en route sans poser de questions et il agira de la même manière lorsque Dieu lui demandera de sacrifier son fils, sacrifice qui est arrêté au dernier moment, donc au chapitre 22 de la Genèse. C'est du moins ce que les traductions nous disent. Mais avant de revenir sur ce récit terrible d'Abraham prêt à sacrifier son fils, il est important de reprendre le premier verset du chapitre 12 de la Genèse que j'ai lu il y a un instant. L'Éternel dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. » Si l'on regarde de plus près les mots hébreux, il faut entendre « lek leka », ce qui signifie en fait « va pour toi, va vers toi ». La même expression apparaît plus loin dans l'histoire d'Abraham, mais elle se rencontre aussi par deux fois également dans le Cantique des Cantiques au féminin, chapitre 2, versets 10 et 13. L'amant dit à l'amante, « Lève-toi vers toi-même, ma compagne, ma belle, et va vers toi-même. » L'amante, comme Abraham, est invitée à un départ, s'en aller vers soi-même. Comme l'amant du cantique, l'Éternel ne dit pas non plus à Abraham « viens vers moi » ni même « monte vers moi ». L'Éternel devient celui qui appelle l'humain vers lui-même, vers l'humain. Fatale traduction de « lek leka », ce n'est définitivement pas « va-t'en », c'est pour lui-même qu'Abraham est invité à partir. C'est vers lui-même qu'Abraham est invité à aller. Cet appel divin à aller pour lui-même, vers lui-même, n'a rien d'arbitraire. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question qui nous concerne tous. Si la vie parle en chacun de nous, elle peut nous dire exactement ce que l'Éternel dit à Abraham. Si le désir de vie est en chacun de nous, si la vérité vive habite en l'humain, en nous, et si elle appelle, c'est très probablement à cela, aller vers soi-même. En cela, l'expérience d'Abraham est une expérience profondément humaine. La nécessité du départ, la nécessité d'avancer vers soi. Car pour parvenir à notre propre vie, nous avons tous à sortir de matrices successives, sortir des liens qui nous retiennent, des personnes, des convictions, des idéologies, des représentations de nous-mêmes et des autres, des représentations de nos proches qui peuvent parfois nous empêcher d'aller vers l'émergence de notre vie. Combien de fois, sans doute, plusieurs d'entre nous ici ont entendu en eux-mêmes une parole libre, quelque chose qui parle en nous et qui a changé le cours de notre destin. Pour nous, ainsi, une occasion de nous interroger sur nos nouveaux départs, sur ce qui nous retient d'aller vers nous-mêmes. Oui, il importe sûrement de nous interroger sur ce qui nous empêche en nous-mêmes d'avancer, tel Jésus de Nazareth, dans une religion où aimer ne signifie pas avoir, ni être aliéné à l'autre, mais aimer l'autre comme soi-même. Un principe déjà au cœur de la Bible, du judaïsme, de la Torah, qui nous appelle à vivre et à parler sous l'emprise d'aucun autre, d'aucune idole. Mais voilà, je pense personnellement qu'il nous arrive d'être sourds et oublieux comme Abraham. Comme Abraham au chapitre 22 de la Genèse. À plusieurs reprises, Abraham avait déjà entendu la promesse de l'Éternel. Dès le chapitre 12, « Va vers toi, vers le pays que je te ferai voir. » Et partant, Abraham avait déjà vu ce dont l'Éternel était capable avec lui. Un fils était né, Ismaël. Au chêne de Mambré, Abraham avait bien entendu la promesse qu'il serait père d'un autre, d'une multitude, ce qui avait fait rire Sarah. Il y avait eu la naissance d'Isaac au chapitre 18, alors que Sarah et lui étaient très avancés en âge. Abraham n'avait pas manqué de promesses. Il avait pu valider à plusieurs reprises les bienfaits entraînés par le mouvement vers lui-même auquel l'Éternel l'a invité à maintes reprises. Mais au chapitre 22, tout bascule à nouveau. Abraham est oublieux des promesses libératrices. Il revient en arrière. Il régresse vers les croyances précédant sa découverte du Dieu qui libère. Il importe de réentendre ce fameux passage du sacrifice d'Isaac, de le relire et de le retraduire, comme a pu le faire André Chouraki, comme a pu le commenter la psychanalyste Marie Balmary. L'Élohim éprouve Abraham, il lui dit « Abraham ». Abraham répond « Me voici ». Il dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va pour toi en terre de Moria, là monte-le en montée sur l'un des monts que je te dirai ». C'est l'Élohim qui demande « Et ton fils, monte-le en montée ». Surprenante cette traduction littérale, au plus proche du texte hébreu, dans laquelle ne figure pas « offre-le en holocauste ». Il y a bien un rabbi français, champenois, au XIe siècle, qui s'appelait Rachi, qui vivait à Troyes en Champagne, qui avait lui-même bien compris que ne figurait pas dans le texte hébreu « offre-le en holocauste ». Mais bien, Dieu ne dit pas « immole-le », mais « fais-le monter sur la montagne ». Mais qui pense aujourd'hui à Rachi 10 siècles plus tard ? Il ne s'agit donc pas d'une mise à l'épreuve suprême et absurde de la foi. La foi d'Abraham n'est pas vue ici comme une soumission. Le texte serait alors autre chose que le récit d'une obéissance, absurde à un ordre de Dieu. Il serait un récit de la transformation de la foi d'Abraham. Abraham est clivé en fait, comme nous pouvons l'être nous-mêmes. Au verset 5, il dit aux deux jeunes gens qui les accompagnaient, son fils et lui, « Moi et Isaac, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Ce n'est pas « je reviendrai vers vous », mais « nous reviendrons vers vous ». Il est clivé, car il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il est en train de faire. Il se prépare à sacrifier réellement son fils. Et c'est là que le texte bascule. Le messager de l'Éternel intervient. Un ange, c'est un messager, quelqu'un qui apporte une nouvelle. Il ne porte plus le nom d'Élohim, le nom du Dieu d'Israël, mais aussi celui des dieux païens, les Élohim. Le messager, l'ange, vient de la part de Yahvé, le tétragramme, l'éternel, celui qu'on ne peut pas nommer. Ce n'est pas le même Dieu qui arrête le bras d'Abraham. Ce n'est pas le même qui lui a dit ou qu'il a cru entendre lui dire « Sacrifie ton fils ». Cet ange dit « Ne lance pas ta main, ne lui fais pas quoi que ce soit. « Tu n'as pas retenu de moi ton fils. » Au lieu de « Tu n'as pas épargné ton fils. » »« Tu n'as pas retenu de moi ton fils. » Oui, écoutons bien ce que dit l'ange de Yahvé. « Tu n'as pas retenu de moi ton fils. » Cela ne veut-il pas dire plutôt « Tu ne l'as pas privé de la parole ?» Tu ne l'as pas retenu loin du Verbe, tu ne l'as pas privé de la parole qui libère. Ainsi, ce passage dit comment peut évoluer la foi, d'une représentation archaïque et absurde d'un Dieu qui pourrait nous demander le pire. Dieu ne nous demande jamais le pire. Et notre salut dépendrait de notre obéissance, alors que c'est tout l'inverse. Un Dieu, l'Éternel, qui invite un père à se séparer symboliquement de son fils et de le faire grandir. Un Dieu, l'Éternel, qui brise la loi du sacrifice au lieu d'être un éloge du sacrifice. Terrible contresens véhiculé par tant de religieux de toutes les religions. La foi aveugle d'Abraham, ce n'est pas ça, la religion. Le but de Dieu n'est pas de vérifier son emprise sur un homme. Ce n'est pas une épreuve de foi, cela ne mesure à ce moment-là que l'aptitude au fanatisme d'Abraham. L'image qu'il se fait de Dieu à ce moment-là, c'est l'image d'un Dieu roi de la manipulation, un Dieu sanguinaire qui demanderait une obéissance meurtrière. L'interprétation de la mort de Jésus comme accomplissement jusqu'au bout, le sacrifice voulu par Dieu, c'est une interprétation mortifère qui peut être renversée, elle aussi. Un Dieu, l'Éternel, qui est celui qui dit « Je suis » et qui nous invite à être. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Jean au chapitre 14. Ce récit dit du sacrifice d'Abraham devient ainsi la parabole de l'accès à une foi plus mature, plus libératrice, qui n'est plus idolâtre et donc aliénante. Ce qui nous rassure, c'est que comme Abraham, nous régressons quelquefois dans nos représentations de Dieu, mais il peut y avoir des messagers de l'Éternel. Pour conclure, je veux citer Raphaël Picon. Croire que Dieu est toujours au-delà de Dieu, pour démasquer les idoles théologiques, l'omnipotence divine, la Trinité, le Dieu Jésus, les idoles théologiques. Mais assumer la relativité de nos confessions de foi pour en inventer de nouvelles, de plus justes et de plus vraies. Merci.